Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, à toute la grande famille Nouvelle Vie et tous ceux qui nous regardent sur Internet. Je suis vraiment heureux d'apporter ce deuxième message dans la série « Pourquoi croire ?». Et je crois réellement que cette série de messages va nous aider, nous, l'Église, les croyants, les chrétiens, à approfondir notre connaissance sur Dieu, notre compréhension de la parole. Parce que vous savez, la foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle ou ignorante. Non, la foi chrétienne nous pousse à la réflexion. C'est pour ça qu'on peut se poser les questions, parce que Dieu a des réponses à donner. Je crois également que cette série va donner des réponses à ceux qui se posent des questions existentielles. Vous n'êtes peut-être pas croyant, vous n'êtes peut-être pas chrétien, vous nous regardez aujourd'hui et vous avez des questions existentielles et vous n'arrivez pas à mettre des réponses sur cette question. Vous êtes à la bonne place. Parce que vous savez, l'être humain, depuis toujours, est à la recherche dans une quête de vérité. Il veut savoir la vérité sur les choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je suis né en 1986. Je sais, pour peut-être certains, j'ai l'air plus jeune. Mais je suis né en 86, ce qui fait de moi, je fais partie de la génération qu'on appelle les millennials. Cette génération-là a beaucoup de noms, beaucoup de surnoms. Et l'un de ces noms, c'est la génération Y. Y en anglais se dit why. Et why veut dire pourquoi. Et le nom de cette génération, c'est pourquoi. Parce qu'elle se pose toujours des questions. Elle remet en cause les choses qu'on fait. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne changerait pas? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? J'ai jamais vu en ce moment autant de reportages, autant de documentaires sur Netflix, YouTube, sur les réseaux sociaux. Des reportages qui proclament avoir la vérité, dire la vérité sur tel ou tel scandale, la vérité sur les conspirations gouvernementales, la vérité sur le 9 septembre, la vérité sur est-ce qu'on a réellement marché sur la Lune. On est toujours à la recherche de qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est faux. On cherche des réponses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'on cherche la vérité sur tout ce qui se passe autour de nous, mais dès qu'on arrive à une question de foi, de Dieu, de spirituel, beaucoup de personnes font un pas en arrière en disant « Oh, ça là, je ne pense pas qu'on pourra un jour connaître la vérité. » Il y en a tellement beaucoup qui disent avoir la vérité qu'on ne pourra jamais savoir qui dit vrai. Ou « Ah oui, je sais qui dit vrai. » Tout est faux. Tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de Dieu est faux. Et vous êtes peut-être en ce moment en train de vous poser la question « Mais qu'est-ce qui est vrai du faux ?» Et puis peut-être vous êtes là aussi influencé par la pensée relativiste, de dire « Il n'existe aucune vérité absolue. » Cette pensée-là, notre société est beaucoup sur cette pensée-là en disant « Il n'existe aucune vérité absolue. Personne ne peut prétendre dans l'humanité avoir ou connaître la vérité absolue. » Ce qui est intéressant et aussi paradoxal avec cette pensée-là, c'est que si tu crois à cette maxime qui résume cette pensée relativiste « Il n'existe aucune vérité absolue », c'est que si tu crois que ce que tu dis est vrai, alors tu dis que c'est faux, parce qu'elle est auto-contradictoire. S'il n'existe aucune vérité absolue, alors ce que tu viens de dire est en fait faux. Il existe une vérité. Nous sommes tous à la recherche de la vérité. Et vous savez, la foi chrétienne, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, la foi chrétienne se base sur le fait que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu vivre sur cette terre il y a 2000 ans, et il a vécu une vie parfaite. Il a été le seul à vivre une vie parfaite, sans péché, à aller mourir jusqu'à la croix pour pouvoir nous donner sa vie. Il est mort pour nous donner sa vie et il est ressuscité 3 jours après et il est encore vivant aujourd'hui. Et c'est ça la foi chrétienne. Nous croyons en la vérité et son nom est Jésus-Christ. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. On va voir pourquoi croire que Jésus est la vérité. Jésus lui-même le dit dans Jean 14, 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas dit « Je suis une des vérités » ou « J'ai une partie de la vérité ». Non, il dit « Je suis la vérité ». Vous allez me dire « Mais la vérité sur quoi ?» Jésus est la vérité sur tout, sur la réponse. En fait, il est la réponse sur Dieu, sur qui est Dieu. Il est la révélation de Dieu, il est le sens de la vie. En Jésus, nous trouvons le sens de la vie. Nous trouvons les réponses sur nos questions existentielles. Pourquoi nous sommes ici? Où nous allons après la mort? Quel est le sens de cet univers? Jésus est en fait la réponse à toutes nos questions. Et on va regarder ensemble, j'ai 3 points pour nous aujourd'hui. Pourquoi croire que Jésus est la vérité? Le premier point que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que l'histoire l'atteste. Pourquoi croire que Jésus est la vérité? Car l'histoire l'atteste. Vous savez, il y a beaucoup, nombreux écrits historiques qui parlent de la vie de Jésus, sa naissance miraculeuse, la vie de Jésus, les miracles qu'il a accomplis, la mort qu'il a subie à la croix et sa résurrection 3 jours après. Mais certains, encore en 2020, pensent et disent que Jésus n'a jamais existé. Ils disent que c'est une fable, que c'est un mythe, qu'au fur et à mesure des générations, il y a une légende sur Jésus, sur les disciples et la foi chrétienne qui s'est montée un peu, de génération en génération. Mais c'est faux. Il y a de nombreuses preuves historiques, en commençant par la Bible. Je sais que là, certains sceptiques vont me dire, non, la Bible ne peut pas être une source crédible et historique. Mais pourquoi ? Certains pensent que la Bible, c'est juste un livre écrit par un homme, ou alors même certains croient que c'est écrit directement de Dieu, que nous l'avons reçu comme ça. Non. La Bible a été inspirée de Dieu. Elle est parfaite, mais elle a été écrite par des hommes, inspirée de Dieu, écrite par des hommes sur plusieurs milliers d'années, par plusieurs centaines de personnes. Il y a quelque chose qui est fort parce que dans les évangiles, la deuxième partie de la Bible, les évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, parlent de la vie de Jésus. Mais ces écrits-là sont historiques. Certains vont dire, non, c'est pas assez, ça ne nous prouve pas assez l'historicité de Jésus. Bien sûr que oui, parce que le Nouveau Testament est historique. Le Nouveau Testament parle de la vie de Jésus, il parle même des témoins oculaires qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui, qui l'ont vu mourir et qui l'ont vu ressusciter. L'évangile de Luc, par exemple, Luc est le plus scientifique de tous les évangélistes. Il nous parle dans Luc 1, versets 1 à 14. Il nous montre comment il a fait pour valider le texte qu'il écrit. On lit ensemble, Luc 1, versets 1 à 14. « Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. » J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer, par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. C'est une lettre qu'il écrit à Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Luc est en train de dire que tout ce qu'il est en train d'écrire a été méticuleusement, soigneusement vérifié. Et les évangiles sont des sources fiables historiques. Certains disent non, c'est devenu une légende au fil des temps parce qu'on n'a jamais vraiment de preuves de ce qui a été écrit et si c'est véridique. Non, parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé plus de 20 000 copies des manuscrits du Nouveau Testament. 20 000 copies. Les plus anciennes copies retrouvées datent seulement d'une dizaine d'années après leur rédaction, du 1er siècle. C'est incroyable. C'est que la conservation des textes dans leur intégrité est en fait totale. C'est Josh McDowell, un apologète, auteur de nombreux livres, qui dit « Si quelqu'un rejette la Bible sous prétexte qu'elle n'est pas fiable sur le plan historique, alors il devra aussi rejeter toute la littérature de l'Antiquité. » Bien sûr, certains vont dire « Ok, mais moi j'ai besoin d'autres sources extra-bibliques. » Et il y en a qui prouvent la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Les sources extra-bibliques, il y a des historiens qui ne savaient pas quoi faire avec ce qui se passait à Jérusalem en ce temps-là, en Israël. Ils étaient en train de décrire ce qui se passait dans l'Empire romain. On voit l'historien romain Tacite. Il est en train de dire, il se passe quelque chose d'incroyable, parce que depuis que Jésus-Christ est venu, il y a eu des croyants qui ont commencé à changer de religion. Ils parlaient des Juifs qui devenaient chrétiens. Et ça a fait tellement un impact dans la société que même à Rome, Néron, avec l'incendie de Rome, a mis la faute sur les chrétiens. Parce qu'il disait, il y a tellement de choses qui se passent que les chrétiens font tellement de bruit après avoir rencontré Jésus, il y a quelque chose d'incroyable. Et l'historien romain Tacite est en train d'écrire tout ça, il est en train d'attester que Jésus-Christ a vécu et que d'après sa vie, sa mort et sa résurrection, le monde était en train de changer. Et lui, il n'avait rien, entre guillemets, il n'avait rien à gagner à dire que Jésus était vivant et qu'il était mort ou ressuscité. Non, parce que lui était un historien neutre. Il regardait ça de loin. C'est comme les historiens juifs, comme Flavius Joseph, qui a écrit. Les Romains et les Juifs n'avaient rien à gagner à dire que, oui, en fait, Jésus est là et puis on croit ensemble. Non, ils ne croyaient même pas que Jésus était la vérité à cette époque-là. Il ne savait pas quoi faire avec les chrétiens, avec le christianisme qui était en train de grandir. Et il y a plus d'une dizaine, voire une douzaine d'historiens qui ont parlé de Jésus, de ce qui se passait en ce temps-là, comme Talus, Suétone, Pline le Jeune, Lucien de Samosate. Des dizaines. Si vous voulez la liste exhaustive, il y a un livre qui s'appelle « The Historical Jesus » écrit par Gary Habermas. Vous pouvez aller sur son site Et ce livre-là est gratuit en PDF. Vous pouvez avoir toute la liste exhaustive de tout ce que l'histoire atteste de Jésus. Toutes ces différentes sources font en fait, comme l'historien Simon Minimouni nous dit, nous pouvons dire que Jésus est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité. Et la diversité des sources le concernant rend la thèse mythiste insoutenable. Mythiste veut dire qu'il croit que Jésus est un mythe. En fait, nier l'existence de Jésus, c'est en fait vouloir se débarrasser de tout ce qu'il représente. Jésus a transformé l'humanité. Il n'est pas seulement venu mettre un calendrier. Voici un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Non, il est venu transformer l'humanité, les valeurs, la morale. Comme le dit l'ancien journaliste au Nouvel Obs, Jean-Claude Guibaud, qui était un ancien agnostique devenu chrétien, il nous dit « La plupart des convictions auxquelles nous adhérons spontanément, celles qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948 et qui fondent la démocratie occidentale, trouvent leur source dans le biblique. Le monde a été changé par la venue de Jésus-Christ et les évangiles nous le témoignent. Jésus est venu non pas seulement pour marquer un point dans l'histoire, il est venu pour éclairer le monde et tous ceux qui voulaient mettre leur foi en lui. Jean 8, verset 12 dit, Jésus qui parle dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est venu pour éclairer l'humanité, pour la changer, pour la transformer. Et l'histoire nous prouve que Jésus a bien vécu, il a bien fait des miracles, il est bien mort et ressuscité trois jours après. Il y a beaucoup, peut-être, quelqu'un va me dire, il y a beaucoup de gens qui ont marqué l'humanité. Tu me dis que Jésus est venu apporter une lumière dans l'humanité, mais il y a beaucoup de grands hommes et grandes femmes qui ont éclairé l'humanité. Et c'est vrai, mais jamais de la manière dont Jésus a fait. C'est mon deuxième point. Pourquoi croire que Jésus est la vérité? Parce qu'aucun homme n'a jamais fait ce que Jésus a fait. Vous savez, ma génération est née dans une société post-moderne, post-chrétienne. Et un peu le slogan en ce moment, c'est un peu « Fais ce qui te semble bon et crois ce qui te semble vrai ». C'est un peu le pluralisme. Prends ce que tu veux, fais un mix, et puis si tu dis que c'est ta vérité à toi, tant mieux, on est content pour toi. Il n'y a plus une recherche ultime de vérité, c'est un peu « Si tu dis que tu as la vérité, ben, on te croit. Si tu penses vivre ta vie comme tu le veux, vas-y, il n'y a plus de codes moraux réellement ». Et on dit un peu « Jésus est une vérité parmi tant d'autres ». Beaucoup, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je lui pose la question « Mais que crois-tu de Jésus ?» Ils me disent ben, « C'est vraiment un homme de bonne valeur. C'est un enseignant incroyable. » Non, ce n'est pas Dieu, je ne suis pas prêt à dire que c'est Dieu, mais c'est un bon maître de morale, c'est un exemple à suivre. La majorité de notre société pense que Jésus est une bonne personne, mais ils ne sont pas prêts à dire que Jésus est Dieu. Pourtant, si on regarde ce que Jésus a dit de lui-même, on ne peut pas concilier les deux si on ne croit pas que Jésus disait la vérité. Jésus a proclamé sa divinité. Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus disait qu'il pouvait pardonner les péchés. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Il disait qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter trois jours plus tard. Qui peut être saint d'esprit en croyant qu'il va mourir et ressusciter? Personne ne pourrait dire ça. Aucun homme dans l'histoire de l'humanité, aucune femme dans l'histoire de l'humanité ne pouvait le faire. Parce que Jésus n'est pas comme tous les hommes, ni comme toutes les femmes. Jésus était Dieu. C'est C.S. Lewis qui dit, il est décédé aujourd'hui, c'est un ancien professeur de l'université de Cambridge, un auteur de beaucoup de livres. Lui aussi, ancien agnostique devenu chrétien, qui dit « J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire cette chose insensée que les gens disent souvent de lui. » Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître de morale, mais je n'accepte pas sa prétention d'être Dieu. Il ne faut pas dire cela. Un homme qui ne serait qu'un simple homme et qui tiendrait le genre de propos que Jésus a tenu ne serait pas un grand maître de morale. Ce serait un fou, au même titre que l'homme qui se prend pour le diable de l'enfer. Vous devez choisir. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou, si ce n'est pire. On ne peut pas dire que ce que disait Jésus était bon et ne pas le reconnaître comme vrai. Parce que si Jésus disait quelque chose et que c'était faux, alors c'était un fou. Mais si Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il pouvait pardonner les péchés, qu'il allait mourir et ressusciter pour sauver l'humanité, mais que c'est vrai, alors ça change tout. Jésus a dit lui-même qu'il était l'accomplissement de toutes les prophéties qui attendaient le Messie. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, ça a été écrit des centaines, voire des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs centaines de prophéties. En fait, il y a 300 prophéties messianique. 300 prédictions, on pourrait dire ça un peu, qui précisent, voici qui sera le Messie. Et ce n'est pas des prophéties larges comme voici, il viendra, il sera vêtu de... Non, c'est des prophéties exactement précises. Autant que, on va aller regarder les prophéties sur Jésus, les prophéties messianiques. Il sera juif. Une prophétie, vous avez les références bibliques à côté. Il sera de la tribu de Judas. Il sera de la lignée familiale de David. Il naîtra à Bethléem. Il sera trahi par un ami proche. Jésus a vécu tout ça. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Il sera crucifié aux côtés de brigands. Et il sera mis dans le tombeau d'un homme riche. Ça, c'est seulement 8, même pas une dizaine de prophéties sur les 300 prophéties qui parlent de la venue d'un sauveur, d'un Messie. C'est Jean 5, 39. C'est Jésus qui parle et il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Il parle aux Juifs de l'époque. Mais il dit « Ce sont elles, en parlant des Écritures, qui rendent témoignage de moi. » Il est en train de dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, est en train de pointer vers moi. Car la révélation de l'amour de Dieu était en Jésus-Christ. Jésus est le Sauveur tant attendu. Écrit des centaines et des milliers d'années avant sa venue. Les prophéties précises. Et aucun être humain ne pourrait prétendre être ce Messie qu'on attendait. En fait, Peter Stoner, dans son livre « Science Speaks », a calculé la probabilité pour que quelqu'un, un jour dans l'humanité, puisse accomplir seulement 8 des 300 prophéties. Elle serait de 1 sur 100 000 milliards, je pense. C'est 10 puissance 17. C'est tellement grand qu'on n'arrive même pas à le lire en termes. C'est 10 puissance 17, c'est énorme, c'est impossible. En fait, personne dans l'histoire de l'humanité ne pourrait même passer proche d'accomplir seulement 8 des 300 prophéties sur Jésus. Toutes ces prophéties ont trouvé leur accomplissement en une seule personne, la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus n'est pas un homme parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'il n'est pas seulement un grand maître de morale. C'est fou parce que l'une de ces prophéties qui parlait du Messie, une prophétie datant de 1012 avant Jésus-Christ. Vous pourrez lire, c'est dans Psaume 22, versets 6 à 18. Ce psaume prédit que cet homme, en parlant de Jésus, le Messie, aurait les mains et les pieds percés, c'est-à-dire qu'il serait crucifié. Cette description fut faite 800 ans avant que la crucifixion ne soit introduite et appliquée par les Romains. Inspiré par l'Esprit de Dieu, celui qui écrivait ce psaume était en train de prédire la manière dont Jésus allait mourir avant que cette méthode ne fût créée. C'est pour ça que Jésus n'est pas un parmi tant d'autres. C'est pour ça que Jésus n'est pas seulement un prophète ou un messager. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il était en train de dire « Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. Personne ne peut avoir la vie éternelle sans passer par moi ». Oui, c'est exclusif, parce que la vérité est exclusive. La vérité, c'est qu'un a raison et les autres ont tort. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Jésus était un grand maître de morale comme beaucoup d'autres. Comme les gens aujourd'hui qui disent, mais tu sais, toutes les religions sont un peu pareilles, tout le monde a un peu sa vérité. En fait, toutes les religions valent la même chose, vous parlez de la même chose. Non, pas du tout. C'est Ravi Zacharias, un grand apologète, auteur de nombreux livres, dont « Jésus et les autres divinités », qui dit « Dans nos sociétés postmodernes, on pense souvent que toutes les religions sont fondamentalement les mêmes, avec quelques petites différences superficielles. Alors qu'en fait, les religions sont fondamentalement différentes, avec quelques similarités superficielles. On mélange les deux concepts. On pense croire que oui, en fait, Jésus, c'est un des nombreux à dire qu'il avait la vérité parce que c'est une des nombreuses religions. Non, Jésus est venu pour briser la religion. Jésus est venu non pas pour dire aux hommes « Voici tout ce que vous devez faire pour pouvoir gagner votre salut. Voici tout ce que vous devez subir pour pouvoir impressionner Dieu, pour qu'il vous donne une place à côté de lui. » Non, Jésus était en train de dire « Aucun homme, aucune femme, si bon soit-il, pourrait être assez parfait pour pouvoir être dans la présence de Dieu. » C'est pour ça que ça ne sert à rien ce que tu essayes de faire, de toujours essayer de faire des bonnes actions pour te sentir mieux, pour peut-être un jour dire « Ok, j'ai une vie assez bonne et peut-être qu'un jour, si jamais il y a un Dieu quelque part, quand je vais arriver après ma mort, au moins j'aurai dans la balance beaucoup de bonnes actions. » Non, personne ne pourrait dire ça. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes remplis de quelque chose de mauvais. Et vous le savez comme moi, au plus j'essaye de faire le bien, au plus l'orgueil vient. Et l'orgueil n'est pas quelque chose de bien. l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Et la religion est en train de te dire, fais plein de choses. Et peut-être qu'un jour après ta mort, peut-être que ça va compter dans ton salut. Alors que non, la religion, c'est tout ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui a tout fait pour venir atteindre l'homme. Il a traversé le ciel, il est venu naître comme un enfant. Il a vécu ici une vie parfaite pour que nous puissions dire, il n'est pas comme nous, il est différent. Oui, il était 100% homme, mais Jésus était aussi 100% Dieu. C'est pour ça qu'il a pu aller souffrir à la croix, prendre ton péché et le mien. Notre souffrance, c'est lui qui l'a portée. Et il est mort et il est ressuscité pour que nous puissions être justifiés, pardonnés de nos péchés, pour pouvoir un jour être dans l'éternité avec lui pour toujours. Dieu, à travers Jésus, est venu pour nous rencontrer. Je parlais de ça avec quelqu'un il y a quelques temps, alors que j'ai passé 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, je vous rassure. Mais j'ai dû passer 24 heures, une nuit à l'hôpital. Et alors que, vous savez, comme moi, 24 heures à l'hôpital, c'est long. Alors j'avais mon téléphone, puis je regardais des séries Netflix. Et puis à un moment donné, je commence à regarder je lisais les livres, je regardais des séries Netflix. 24 heures, c'est vraiment long, vous me comprendrez. Et puis je termine en regardant des débats apologétiques. Je suis vraiment, c'est pour ça que je suis pasteur. C'était comme la science et la foi, comment ils peuvent cohabiter. Ne manquez pas le message de Dr. Stéphanie Rieder qui va nous apporter comment la science et la foi peuvent fonctionner. C'est incroyable. J'étais en train de regarder un des débats, une conférence vraiment intéressante. Et une personne du personnel médical entre dans ma chambre pour faire des tests et tout ça. Et puis il me dit, oh, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Alors je lui explique. Là, je suis allongé sur mon lit en jaquette, puis je lui parle. Donc voici, je suis en train de regarder une conférence, puis c'est vraiment intéressant. Puis il me dit, oh, c'est quoi comme conférence? Alors je lui explique la science et la foi, comment elles sont complémentaires. Et là, il me regarde assez stupéfait, puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je lui explique, je suis pasteur. Et là, je ne sais pas ce qu'il pensait, il a tout de suite dit, ah ben moi, je suis athée. Il n'y a aucun problème. Et puis là, on a commencé à discuter. Il avait à peu près le même âge que moi. Et puis, on a commencé à discuter vraiment des bonnes discussions. Et je peux vous dire que la majorité des discussions qu'on avait étaient très intéressantes parce qu'on arrivait souvent aux mêmes conclusions. On parlait ensemble de la vidéo YouTube que je lui ai expliqué que la science et la foi. Lui, c'est un scientifique. Alors, il aime la science, il aime les données, il aime les découvertes. Et puis, je lui disais que moi aussi, je ne suis pas un scientifique, mais j'aime découvrir ce que la science dit. Parce que pour moi, la science est juste la signature de Dieu. À chaque découverte que la science fait, quand elle est validée, ça nous montre la grandeur de Dieu. Et alors que je lui dis ça, pour lui, c'était un peu un concept qui ne fonctionnait pas ensemble. Comment un pasteur qui a la foi spirituelle peut aimer la science qui est naturelle. Et je lui explique que Dieu doit exister parce que la complexité du corps humain, de l'univers, de tout ce qui est ici, tout ce qui est beau, comme on l'a vu avec Pasteur Claude la semaine dernière, tout ce qui est parfait et qui la complexité de l'univers ne peut venir de rien d'autre que quelqu'un qui l'a créé intentionnellement. Et alors qu'au début, il me dit qu'il est athée, au plus on parle, au plus je vois qu'il nuance sa pensée. Et puis, il devient agnostique durant la discussion. Alors, il dit, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut, mais en tout cas, on ne saura jamais. Et là, on rentre encore dans une discussion vraiment intéressante. Je pense qu'il a fait des heures supplémentaires avec moi. Moi, j'étais bien content. Au lieu de Netflix, j'avais vraiment une discussion avec quelqu'un de vrai. Et alors qu'on parle, je lui explique, je lui dis, mais tu ne penses pas que si jamais il y a un créateur qui crée quelque chose, il ne voudrait pas être en relation avec sa création? Là, il me dit, je ne sais pas. Je dis, OK, prends-toi et moi, imaginons qu'on soit artiste. Si moi, je suis un peintre et que je t'invite chez moi et que je te dis, hey, que penses-tu de ma peinture? Et que tu la critiques en disant, ah, j'aime pas du tout, c'est vraiment laid. Qu'est-ce que tu crois que ça va me faire? Et il dit, ça va te vexer. Exactement, parce que notre création est une extension de nous-mêmes. On met nos émotions, notre amour, notre intention est dans notre création. Je dis, et si nous sommes aussi imparfaits que des êtres humains, et puis là, il était d'accord avec moi, on est imparfaits même si on veut être des bonnes personnes. Tout ce qu'on crée, on veut être en relation. Il y a comme un lien d'attaché. Je dis, si Dieu a créé un univers aussi complexe, avec une humanité aussi belle, même si elle est malade, mais elle est belle, je dis, Dieu a voulu être en relation avec nous. Et c'est pour ça que je commence à lui expliquer l'histoire de Dieu qui se révèle par les écrits, par les prophètes, et ultimement en envoyant son fils Jésus-Christ. Et alors que je lui parle de Jésus-Christ, je vois que c'était la première fois qu'il le pensait de cette manière-là. Il n'y avait aucune personne peut-être dans sa classe de science qui lui avait parlé de Jésus-Christ. Il n'y avait peut-être jamais confronté malheureusement ses pensées à la foi chrétienne. Mais alors que je lui parlais, on se rendait compte tous les deux que l'humanité est belle et Dieu a un œil sur l'humanité parce que nous sommes le summum de la création. Jésus a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Et alors qu'on discutait, je ne sais pas combien ça faisait de minutes ou de dizaines de minutes, pour moi ça a paru des heures, mais c'était tellement intéressant et lui aussi il restait, sinon il serait parti. Si ça ne l'intéressait pas, ne vous inquiétez pas, il serait parti. Et on discutait ensemble, puis à la fin je lui ai donné un défi, je lui ai dit « J'aimerais que tu puisses lire l'évangile de Jean. » Ok, dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean démontre l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour nous et la divinité de Jésus. Puis je te donne un exercice, je te donne un défi, lis-le. Puis j'espère qu'il a lu, il était vraiment intéressé. Puis je lui dis en même temps, tu sais, si, puis je vous rappelle, je suis sur mon lit d'hôpital en jaquette bleue, ok, super contexte pour embarquer dans un débat théologique. Mais en tout cas, je me disais, toute occasion est bonne, alors je lui dis, regarde, il y a un des livres qui, pour moi, a vraiment fortifié ma foi et m'a donné des réponses. C'est un ancien athée qui était un enquêteur, un journaliste d'enquête. Et il a passé 2 ans de sa vie après entendre que sa femme s'était convertie à Christ. Elle dit que sa vie a changé. Puis lui a dit, non, ma femme ne peut pas être chrétienne. Mais je vais lui démontrer A plus B que sa foi ne tient sur rien. C'est un homme qui s'appelle Lee Strobel. Et il a écrit de nombreux livres, dont The Case for Christ en anglais. En français, c'est Jésus, la parole est à la défense. Et je lui dis, il y a un film qui a été fait sur lui. Il est disponible sur Netflix, sur iTunes. Il s'appelle « Jésus, l'enquête ». Et c'est vraiment un film qui trace, tiré d'une histoire vraie, tiré de l'histoire de Lee Strobel. Et je lui explique, parce que pour moi, ça a été une révélation de lire ce livre. Je lisais les évangiles, mais de lire la vie de Lee Strobel qui essaie de démontrer par A plus B que le christianisme ne tient à rien, que c'est un château de cartes. En fait, il va essayer de concentrer ses recherches pour expliquer que la crucifixion et la résurrection de Jésus est faux. Que si Jésus est mort, il est mort, il n'est pas ressuscité. Ou en fait, si on croit qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il n'est pas vraiment mort. Et alors que je parle avec lui, je lui explique que pendant 2 ans de sa vie, Lee Strobel a essayé d'aller voir les plus grands savants, les plus grands experts. Pendant 2 ans, il a étudié, il a lu les manuscrits anciens, les gens qui disaient que ce n'était pas vrai, les gens qui disaient que c'était vrai. Et il a fait une enquête, parce que c'était un journaliste d'enquête, il a fait une enquête pendant 2 ans. Il a regardé pour avoir la conviction que l'exécution n'était pas vraie. Il voulait la confirmation que Jésus n'était pas mort. Et il s'en est rendu compte rapidement que les experts disaient « Personne ne peut survivre à une crucifixion romaine. » Parce que le Romain qui était en charge de tuer, de crucifier le voleur, le brigand, perdait sa vie si jamais c'était, si c'était pas le crucifié qui mourait, c'était le Romain qui était en charge qui mourait. Alors vous inquiétez pas, ils étaient certains que la personne était bien morte. Donc il y avait une confirmation que Jésus était bien mort. La première chose qu'il veut essayer de prouver, ça ne fonctionne pas. Il va essayer ensuite d'avoir les preuves écrites. Il va se dire, c'est certain que la foi chrétienne a dû se monter comme une légende des centaines d'années après. Donc, si on voit que les manuscrits les plus anciens sont très loin dans l'histoire, on peut dire, regarde, il y a eu un tel gap qu'il y a une légende qui s'est formée. Et il se rend compte que dès les premiers mois après la résurrection de Jésus-Christ, les preuves écrites étaient déjà connues de toute la communauté. Il y avait un credo qui était dit que Jésus était mort, Jésus était enseveli dans un tombeau, mais que Jésus était ressuscité et que des gens l'avaient vu, avaient côtoyé Jésus pendant plusieurs semaines avant qu'il soit élevé vers le Père. Et c'est là où, là encore, il voit que la preuve écrite, ce n'est pas une légende, c'est impossible. Il y a un côté où Jésus est mort et les gens étaient assez d'accord ensemble pour dire « Waouh, il y a quelque chose qui a pris place » et les gens qui étaient même des sceptiques sont devenus croyants en voyant Jésus qui était ressuscité. Ensuite, il essaye de regarder sur « Ok, s'il est mort, et si les gens attestaient qu'il était mort, c'est que sans doute, ils ont été volés son corps dans la tombe. La tombe n'était pas vide, en fait. Les disciples l'ont vidé. Il y a quelqu'un qui l'a vidé parce que c'est impossible. Son corps est quelque part. Et là, il va aller voir, puis les experts encore, il va voyager, il va essayer de déconstruire la foi chrétienne et puis de dire non, la tombe n'était pas vide. Et il va se rendre compte qu'en fait, personne ne comprenait la tombe. Ni les disciples de Jésus, ni les Juifs, ni les Romains. Les amis de Jésus ne comprenaient pas la tombe vide et les ennemis de Jésus ne comprenaient pas la tombe vide. En fait, tout le monde voulait voir Jésus dans la tombe. C'est même pour ça que le dimanche matin, les femmes, les disciples vont voir Jésus. Et là, ils trouvent le tombeau vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Et eux sont en train de trembler. Mais où avez-vous mis le corps de notre Sauveur? Et là, il se rend compte que, OK, mais c'est pas les disciples qui l'ont volé, parce que le complot est impossible. La pierre était roulée, les gardiens romains étaient devant pour bien la garder. C'était impossible qu'il aille là. Mais la foi chrétienne a tellement explosé parce que les gens disaient, il est ressuscité, nous l'avons vu, qu'après les Romains se sont dit, si c'était un canular, les Romains et les Juifs auraient dit, non, regardez, on a retrouvé son corps, c'est pas vrai, il est vraiment mort. Mais personne ne trouvait son corps. Ni les Romains, ni les Juifs, ni les disciples. C'est juste 3 jours après que le dimanche matin, le tombeau était vide et Jésus s'est révélé, s'est montré vivant aux disciples. Et ensuite, pendant plusieurs semaines. Alors ensuite, il s'est dit, OK, si la tombe, ce n'était pas un canular, on va regarder les personnes qui disaient que c'était des témoins oculaires, ça doit être faux. Et là, il va concentrer ses recherches sur aller voir qui étaient les personnes qui disaient avoir des témoins oculaires. Et il trouve que dans les premiers écrits, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont attesté voir et rencontrer Jésus, qui ont mis ses mains dans ses plaies, qui ont vu que c'était vraiment Jésus qui avait été crucifié, qui était mort, mais qui aujourd'hui était ressuscité. Il y avait 9 sources à l'intérieur du Nouveau Testament et hors du Nouveau Testament qui corroborent la résurrection de Jésus-Christ. Et Lister Ball arrive devant ces faits. Il est obligé, après 2 ans, de dire, mais la crucifixion est vraie, la mort de Jésus est attestée, et la résurrection de Jésus a été prouvée. Et là, il se tourne vers Dieu, il se dit, OK, j'ai plus aucun argument. Mais si tu es Dieu, montre-moi que tu es vrai. Et là, il fait une prière et Dieu vient le rencontrer, sa vie est transformée complètement. Le même témoignage que j'ai, que des millions de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ, proclament, nous avons rencontré Jésus et ça a transformé nos vies. Et aujourd'hui, c'est un apologète qui écrit des livres, qui fait des conférences partout. Alors je lui ai dit, à ce médecin-là, je lui ai dit, regarde ce film, lis l'évangile de Jean parce que tu vas voir que Jésus-Christ est la vérité. Mon 3e et dernier point, pourquoi croire que Jésus est la vérité? Parce qu'il change encore des vies aujourd'hui. La majorité des gens que je rencontre parfois à l'église qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, ils n'ont pas les mêmes âges que moi. Mais à chaque fois que je parle avec eux, que je rencontre quelqu'un qui se dit chrétien, quand je lui demande, mais c'était quoi ta rencontre avec Jésus? On a tous le même témoignage. On n'a pas tous la même culture, on n'a même pas tous le même background, le même bagage de vie. Mais à chaque fois qu'on parle de notre rencontre avec Jésus, c'est la même. Il change des vies aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité il y a 2000 ans et puis, OK, ben, il est resté là-bas. Il est encore vivant aujourd'hui et il se révèle à nous par son esprit. Et à chaque fois que je parle, on se rend compte que nos témoignages corroborent. On a fait une rencontre avec Jésus. Il a enlevé notre fardeau, il nous a pardonné. Il y a quelque chose de fort dans une rencontre avec quelqu'un. Ce n'est pas avec un concept, ce n'est pas une rencontre mystique, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait et puis que j'ai tellement cru que, ah, OK, ça va. Ce n'est pas une béquille psychologique, au contraire. C'est une rencontre avec une personne. Ce n'est pas juste les disciples qui l'ont rencontré il y a 2000 ans. Non, il est vivant et il agit encore aujourd'hui et il se révèle à nous. Il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui, chaque année, témoignent avoir rencontré Jésus-Christ, qui est vivant aujourd'hui, qui se révèle. Il n'est pas en chair et en os, non, mais il est en esprit et il vient pour celui qui lui fait de la place. Il y a Jean 8, 31, verset 32, qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est Jésus qui parle en disant, si vous demeurez dans ma parole, si vous comprenez que la Bible est la parole de Dieu, cette Bible-là, en fait, est la révélation de Dieu pour vous guider, pour vous montrer que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Jésus est en train de dire, la vérité, non, ce n'est pas impossible de la trouver, parce que je suis la vérité. Ce n'est pas un concept philosophique. Non, c'est une personne. La vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Le terme « connaître » en grec, quand Jésus parle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le verbe « connaître » n'est pas juste connaître intellectuellement, c'est le connaître intimement. C'est comme faire un avec la vérité. Ce n'est pas juste intellectuel. Et Jésus dit, si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et peut-être, là, il y a une question qui vient en disant, mais libre de quoi? Je ne suis pas esclave de rien. Je suis un homme libre, je suis une femme libre, je suis quelqu'un qui a une pensée libre. Je suis esclave de rien. La vérité qui est Jésus-Christ nous rendra libre, libre du mal, libre du péché, libre de la mort, libre de la séparation d'avec Dieu. Si vous êtes honnête avec vous et avec moi, personne ici n'est parfait. Personne ne peut dire, non, moi là, j'ai besoin de personne. J'ai toutes les réponses en moi-même. Et si je travaille fort, je serai la meilleure personne à vivre sur cette terre. Non, tout le monde dirait, OK, même si tu es la meilleure version de toi-même, que tu travailles fort et puis que tu fais de la motivation, de la discipline, tout, tu ne pourras jamais devenir parfait. On aura toujours besoin de quelqu'un qui nous sauve. L'être humain ne peut pas trouver en lui sa propre solution parce que nous sommes notre propre problème. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Jésus est là et il veut nous donner une nouvelle vie. Jésus est là et il dit, je suis la vérité et si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Ézéchiel 36 dit, Dieu parle en disant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme de la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu veut complètement nous changer, nous transformer. La meilleure vie est en lui. Vous savez, nous pouvons connaître la vérité car la vérité s'est faite connaître à nous. Dans la personne de Jésus-Christ. Et je termine avec cette histoire. Alors que je suis pasteur et je vais officier des mariages cette année, plusieurs mariages que je vais faire sont des jeunes que moi j'ai connus quand ils étaient adolescents. J'étais pasteur des adolescents pendant 10 ans. Et aujourd'hui, devenu adulte, ils m'ont demandé d'officier leur mariage. Puis c'est un honneur pour moi. Et l'un de ces jeunes que je vais marier, ce gars-là, je textais avec lui sur Messenger et puis on parlait du mariage. Et puis je suis remonté un petit peu plus dans nos anciennes discussions. Et puis on se connaît depuis des années. Mais je me souviens qu'à la même période de cette année, l'année dernière, il y a un an, il m'apprenait que l'un de ses amis que je connaissais bien était mort d'une overdose dans son sommeil. Et ça m'a brisé le cœur. Je me rappelais d'eux, il y a des années en arrière, puis ils ne venaient pas d'un background chrétien du tout. Et puis le vendredi soir, alors que nous, on avait l'église ensemble, ils étaient venus invités par des amis, puis on discutait, on parlait du sens de la vie, de Dieu, on parlait du mal, on parlait de plein de choses, de la vie réelle. Et puis les deux étaient intéressés. Et puis à chaque fois qu'on avançait, chaque semaine, on parlait ensemble, on débattait. Et puis on priait, je priais avec eux, puis eux, ils n'étaient pas forcément certains de leur foi, mais ils avançaient. Et puis jusqu'à un jour, plusieurs semaines, plusieurs mois après, où l'un des deux, celui que je vais marier, a décidé de dire, OK, je veux plus vivre cette vie-là. Les deux étaient comme des frères depuis la naissance. Ils vivaient tout ensemble. Ils étaient des meilleurs amis. Ils allaient dans le même party, ils buvaient les mêmes alcools, ils fumaient les mêmes drogues. Ils vivaient la même vie et ils avançaient comme ça dans la vie. Mais à un moment donné, je me souviens comme si c'était hier, c'était un mois de janvier. Alors que je parle et puis je prêche comme aujourd'hui je le fais. À la fin, je fais un appel et puis je dis, si quelqu'un ici veut laisser une place à Jésus dans son cœur, qu'il fasse juste lever la main. Et je me souviens que lui, celui que je vais marier cet été, lève sa main. Et il s'avance à l'appel et on prie ensemble. Et puis là, il déverse sa vie et puis il dit, Seigneur, même si j'ai pas vécu longtemps, je sais que ma vie ne te plaît pas. Et je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, dans ces patterns d'alcool, drogue et tout ça. Puis il dit, je veux vraiment changer de vie. Et alors, à ce moment-là, il donne sa vie à Dieu. Et même s'il avait encore plein de questions, il était au début de sa foi chrétienne, il commence à donner sa vie à Dieu. Et puis, on marche ensemble. Mais ses autres amis avec qui il venait restaient sur leur garde. Ils entendaient le message, ils connaissaient la vérité, ils la comprenaient, mais ils ne les avaient jamais acceptés. Et c'est à partir de ce moment-là où il continuait à venir, mais les deux prenaient un chemin différent de vie. Et lui commençait de plus en plus à lire la parole, et puis à poser des questions, et puis à avancer. Puis il n'est pas devenu quelqu'un de parfait, mais il avançait dans une nouveauté de vie. Son cœur de pierre était changé en cœur de chair, et puis il avançait. Puis petit à petit, il a commencé à connaître une fille à l'église. Ils se sont mis ensemble, ils se sont fiancés, et là, je vais les marier cette année. Mais je me disais, quelle tragédie, alors que tout ce groupe-là était devant la vérité. Ils entendaient la vérité à chaque semaine. Ils la comprenaient. Peut-être même ils étaient en accord avec ça. Oui, je pense que ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Mais ils ne l'avaient jamais accepté. Quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ce n'est pas juste la connaître intellectuellement, c'est l'accepter dans nos vies. Je suis tellement fier de lui aujourd'hui alors que sa vie fonctionne et tout ce qui le détruisait lorsqu'il était adolescent et même a été mis de côté. Il a été libéré du mal qu'il rendait captif, alors que lui et tous les autres se pensaient libres. On est jeune, on vit comme on veut, personne pour nous dire quoi, qui, quand, ni Dieu, ni maître. On vit notre propre vie, on est le maître de notre propre destin. Et alors que les deux chemins faisaient ça, Je suis tellement profondément meurtri quand j'ai appris le décès par overdose. J'étais tellement blessé parce que je me disais, la vérité était donnée. Il y en a un qui l'a acceptée. Ne soyez pas loin de la vérité alors que la vérité s'est rapprochée de vous. Vous pouvez connaître la vérité et la vérité veut se faire connaître à vous. Et aujourd'hui, avec tous mes arguments, même s'ils sont imparfaits, je suis juste en train de vous amener le côté où c'est Jésus la vérité. Tous mes arguments pointent juste vers une seule chose, Jésus. Il n'est pas venu et a adhéré à une religion qui l'a rendu esclave, comme le monde pense, non. Il a rencontré Dieu, Jésus-Christ, qui l'a rendu libre de tout ce qui le rendait mauvais. Et c'est avec ça que je termine aujourd'hui. Ne passez pas à côté de la vérité. Parce que Dieu a tout fait pour venir vous rejoindre. Et même si vous avez des questions, c'est normal, nous en avons tous. Mais Jésus est là pour répondre à chaque question, à chaque période de notre vie, à chaque fois que nous nous approchons de lui, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'approche de nous. Et il s'est approché il y a 2000 ans. Il a donné sa vie. Jésus-Christ est mort à la croix, prenant nos fautes sur lui. C'est pour ça que tu n'as pu apporter tes fardeaux, tu n'as pu apporter ce qui te rend mal, tu n'as pu à être oppressé par la culpabilité, par le péché, par tes addictions, par le mal, parce qu'il a pris sur ses épaules ce que tu n'as pas besoin de porter sur les tiennes. Mais il est là et il te dit, viens à moi. Il y a seulement moi qui peux te sauver, il y a seulement moi qui peux te pardonner, il y a seulement moi qui peux te rendre pur, enlever ton péché, enlever ton fardeau et te donner une nouvelle vie, non seulement ici, mais pour l'éternité, vivre avec moi. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble alors que je vais prier. Si c'est votre désir, là où vous êtes, de dire, OK, j'ai encore des questions. Je me sens peut-être tellement loin de Dieu, mais Dieu est proche de vous. Faites juste lui tendre la main spirituellement en disant, moi, je lève ma main vers Dieu. Seigneur, viens prendre ma vie. Je te demande pardon pour qui je suis. Et je veux vivre une nouvelle vie. Je veux donner ma vie pour que tu puisses la remplir et faire de moi une nouvelle personne. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent ce message. Autant les chrétiens que ceux qui ne le sont pas encore. Seigneur, je te prie pour que tu te révèles à nous. Seigneur, mes paroles sont bien imparfaites, Seigneur. Mes mots sont bien petits, mais ta puissance, ton esprit peut faire la différence. Et tu veux venir sauver, Seigneur, celui qui écoute ce message maintenant. Tu veux venir te révéler à celui, Seigneur, qui te cherche. Seigneur, à celui qui vit dans cette vie et qui dit, mais il n'y a aucun sens à cette vie. Oui, tu es le sens de cette vie. Et Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à moi et j'ai trouvé un sens à ma vie, une raison d'être, une raison de vivre et d'être heureux chaque jour de ma vie. Peu importe s'il fait beau ou s'il pleut, peu importe les hauts et les bas, Seigneur, tu es là, Seigneur Jésus. Et tu me rassures et tu me donnes une vie, Seigneur Jésus, abondante dans cette vie et pour l'éternité. Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions ne pourront nous séparer de ton amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Merci, merci parce que tu as donné ta vie pour que je puisse vivre libre, libre de tout ce qui me détruit. Seigneur, je te prie pour que celui, Seigneur, qui écoute en ce moment, Seigneur, ouvre son cœur à toi. Seigneur, ce n'est pas mes arguments, Seigneur, qui vont convaincre. Seigneur, c'est ton esprit. Alors que chacun puisse ouvrir son cœur en disant, si Jésus est la vérité, alors j'accepte cette vérité. Et cette vérité me rendra libre. Dans le nom de Jésus qu'on a prié et tout le monde dit Amen. On va terminer avec un chant qui proclame que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité. Chantons-le ensemble.